Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série concernant le salut. Et aujourd'hui, le titre sera « La soif divine ». La soif divine. Il est dit dans Saint Jean, chapitre 19, verset 28, que après cela, Jésus, qui savait que déjà tout était achevé, dit afin que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif, j'ai soif. » Dans ce contexte, comme dans tout ce qu'il a dit d'autre et ce qu'il a fait d'autre, Jésus signifiait bien davantage que ce qu'il y paraît au premier abord. C'était le Seigneur de la création qui parlait. Il a frappé l'enclume brûlante du temps et a fabriqué des mondes brûlants à partir des étincelles qui s'en échappaient. Oui, voilà qui était Jésus-Christ. C'est celui qui avait fait tous les fleuves et les ruisseaux et les lacs, oui, et toutes les mers au nombre de 7, et qui avait établi les limites de leur puissance de jaillissement en éparpillant des grains de sable le long des rivages. Voilà qui était Jésus-Christ qui, pour étancher la soif, avait fait surgir un courant d'eau à partir d'un rocher qui résistait et qui avait changé l'eau en vin. Voilà qui était le Créateur tout-puissant qui, à la femme, rappelez-vous, près du puits, avait parlé de l'eau qu'il devait donner, l'eau qui, une seule fois goûtée, lui permettrait de ne plus jamais avoir soif. Jésus-Christ avait donné une signification voilée. Jésus-Christ, uniquement par l'emploi de sa divine prérogative, aurait pu étancher n'importe quelle soif physique. Mais je crois qu'il s'agissait de bien davantage que ceci. Ensuite aussi, il n'avait jamais fait de miracle de son propre chef. Il était dans son objectif déjà établi de réaliser toutes les prophéties relatives à sa venue afin que le monde apprenne qu'il était en vérité le Messie, oui, le Messie qui devait arriver. C'est pour cette raison qu'il a refusé la portion de myrrhe qui aurait calmé ses douleurs afin de pouvoir payer jusqu'à la dernière petite goutte la faute du péché. Dans ces deux mots, j'ai soif, il laissait à la race humaine un message qu'elle devrait comprendre un jour, un message qui se rapportait à la force agissante qui l'avait apporté au monde. Oui, la soif divine. Il n'acceptait pas la mort comme si elle était simplement ordonnée par son destin. Il est mort en toute connaissance de cause, en signe d'acte qui étancherait la soif divine qui l'avait mis sur la croix. Jésus-Christ avait une soif d'âme. Et oui, voyez-vous, pour arriver à vraiment atteindre son but de mourir pour les hommes perdus, Jésus-Christ devait d'abord ressentir la soif de ces âmes perdues. Certains parmi les hommes ont une soif insatiable pour l'argent, d'autres pour la renommée, d'autres encore pour le pouvoir et le prestige. Mais Jésus-Christ avait soif pour les âmes perdues des hommes. Lorsqu'il s'est écrié « Donnez-moi à boire », il a crié du plus profond de son âme, sans limite, « Donnez-moi votre cœur ». Et cette soif de Jésus-Christ ne sera jamais étanchée tant que la dernière âme ne sera pas sauvée et n'aura pas rejoint Dieu. C'est cette soif divine qui a apporté le Créateur du ciel à la terre et l'a soutenu durant toutes les années de sa vie terrestre. Mais quand il est arrivé sur terre, il n'a pu trouver dans toute sa création l'endroit satisfaisant pour sa naissance. Il y avait de la place à l'auberge pour les soldats, les marchands, les courtisans de palais, le méchant et le malhonnête. En fait, pour tous, sauf pour l'enfant Jésus. Pour lui, il n'existait que les mots qui ont démontré la façon dont le monde le considérait depuis ce jour jusqu'à ceci, pas de place dans l'hôtellerie, pas de place pour le Seigneur. Or un jour, il y eut la naissance de la vérité. Oui, la vérité de Dieu attendait de naître. La vérité qui libérerait tous les hommes. Oui, le salut essayait de faire son entrée dans le monde, mais ne trouvait pas de porte pour y entrer. Joseph et Marie enfin arrivèrent à un endroit qui sans doute est l'endroit le plus sale qui soit au monde, une étable. Et c'est là que la pureté divine est née. Lui, qui, des années après, devait être assassiné par des hommes qui se comportaient comme des bêtes, était né parmi les animaux. La lumière de l'étoile de l'Annonciation luisait au-dessus de l'étable, mais là, il y avait également une ombre, oui, une ombre qui suivrait Jésus tout au long de sa vie, c'est-à-dire l'ombre de la croix. Tous les autres hommes étaient nés pour vivre. Il était le seul, chers amis, à ne jamais naître que pour mourir. C'était là la raison de sa venue. La soif divine l'avait amené sur terre pour qu'il passe les années de solitude de sa vie avec ce seul but, toujours devant lui, la coupe amère. Ce n'est pas une tragédie de l'injustice qui a mis Jésus-Christ sur la croix, car les tragédies sont des événements incontrôlables qui sont impossibles à prévoir. Il était dans son destin non de vivre, mais de mourir afin que nous puissions vivre. Peu importe l'ensoleillement du jour, peu importe les nuages dans le ciel, Jésus-Christ était toujours à l'ombre de la croix. Elle le suivait tous les jours de sa vie. Il connaissait la souffrance qui l'attendait, mais jamais une fois il n'a reculé devant le présage menaçant. Jamais. Voyez-vous, comme dans sa chair il était Dieu, il appréhendait totalement ce qui allait devoir endurer, ce qu'il allait devoir endurer. Voyez-vous ? Mais cette divine soif l'a conduit toujours plus avant vers la crise. Et une fois revêtu de sa forme humaine, il a su, mieux que jamais auparavant, combien les hommes avaient besoin de salut. Quand il marchait au milieu de l'obscurité de cette planète enveloppée de péchés, il a réalisé encore davantage combien les hommes avaient besoin de la lumière du monde. Quand il les voyait errer tels des agneaux perdus, il a réalisé l'urgence de leur donner un berger. Quand il a été témoin de leur terrible détresse, il a compris combien il était urgent de leur donner un grand médecin. Quand Jésus-Christ marchait parmi les hommes et voyait leurs conditions désespérées, il a dû attendre la croix avec impatience et se réjouir à l'avance avec enthousiasme, car c'était sur la croix, oui, sur la croix, que tous les besoins des hommes seraient exaucés à jamais. Le malade serait guéri grâce aux marques d'agonie qui lacéreraient son dos. Oui, le silence des âges serait rompu, le sein des saints serait ouvert et tous les hommes partout pourraient enfin venir hardiment au trône de Dieu avec lui qui servirait de médiateur et qui intercéderait en leur faveur. Ils pouvaient donc regarder vers l'avenir par le corridor des années et entendre le dernier cri qu'il allait pousser quand il a crié « Tout est accompli ». Ce cri était le cri qui ouvrirait les tombes qui avait emprisonné les âmes des hommes pendant si longtemps, ce cri qui les libérerait à jamais. Chacun de ses pas le rapprochait de cette heure dernière pour laquelle il était venu, et sa soif divine le conduisait ardemment vers son destin. Chers amis, la soif divine de Jésus-Christ est évoqué d'un ton vibrant dans sa déclaration passionnée. Venez à moi, oui, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Saint Matthieu, chapitre 11, verset 28. Il avait soif alors, et il a soif à présent. Oui, maintenant, pour les âmes des hommes, sa joie la plus grande est de répondre aux besoins de tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. Il n'existe dans votre vie aucun besoin auquel il ne peut répondre. Il n'existe aucun fardeau dont il ne peut se charger. Il n'existe aucune obscurité qu'il ne peut dissiper grâce à la lumière de sa présence. Si vous êtes malade et accablé, il a soif de votre délivrance. Si vous êtes seul, il a soif de devenir ce compagnon qui vous est plus attaché qu'un frère. Sa soif de bénir comprend la terre et englobe tous les hommes partout. Il ne sera jamais satisfait jusqu'à ce que vous, vous le soyez. Il ne prendra pas de repos jusqu'à ce que vous, vous ayez trouvé le repos. Il ne sera en paix que jusqu'à ce que vous, vous ayez trouvé la paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens chapitre 4, verset 7. Ceci également fait partie de la soif divine de Jésus-Christ. Voyez-vous, sur la croix, cette soif divine, elle était manifeste, même dans le brouillard de ses derniers moments d'agonie. En dépit des tortures de cette terrible heure, infligée pour l'éprouver, il n'a jamais perdu de vue le but pour lequel il était venu. Or, avec lui, deux malfaiteurs ont été crucifiés, mais aussi deux autres représentants remarquables de la race humaine qui, eux, n'ont jamais pu être retrouvés. Ils représentent les deux extrêmes de la conscience humaine, celui de gauche, bien plus concerné par la douleur humaine qu'il ressentait que par son destin éternel. Il a demandé à ce qu'on le descende de la croix. Celui de droite, qui avait entrevu, sans qu'on sache comment, la raison de la mort du Sauveur, il a demandé qu'on le monte sur la croix, soulageant ainsi, au moins en partie, la soif divine de Jésus-Christ, qui dit alors « Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il lui a pas dit « Tu es peut-être indigne, peut-être tu as vilipendé de l'argent pour aller en vacances ou pour aller jouir de certains plaisirs humains. » Non, 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 il lui a pas fait ces reproches-là. Non, il lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Pour le malfaiteur, cette prière qui a sans doute été sa toute première prière, elle a certainement été sa dernière, et elle a trouvé sa réponse. Comme il semble étrange que les disciples avec qui Jésus-Christ a passé tellement de temps aient douté et redouté que seul l'un d'eux soit présent à sa crucifixion. Pourtant, un malfaiteur qui entrait en contact avec Jésus-Christ pour la première fois et dans des conditions si défavorables, a été en croyance totale et a reconnu en le Christ son Sauveur. Ses propres mauvaises actions l'avaient amené sur la croix pour mourir, mais il a cru savoir qu'il n'en était pas de même pour Jésus-Christ et qu'il en sortirait vainqueur. Alléluia. Il y a un portrait remarquable du jugement dernier dans la scène qui s'est déroulée au calvaire. Le juge est au centre et les deux divisions de l'humanité sont de chaque côté, l'une pour être sauvée et l'autre pour être perdue. Pour le repentir, celui qui croit, Jésus-Christ a tendu la main de la rédemption. Mais il regarde avec tristesse du côté de celui qui s'en va pour plonger à jamais dans les abîmes éternels des hommes oubliés. De quel côté de la croix êtes-vous, chers amis? Vous préoccupez-vous davantage de vos besoins immédiats que de votre destin éternel? Il y a quelqu'un qui m'a fait croire que que peut-être que je ne m'en occupais pas assez. Mais il est facile de juger. Mais il faudrait peut-être voir d'abord la paille qui est dans son œil. Voyez-vous, le tragique, c'est le fait que tant d'hommes n'arrivent pas à réaliser que Jésus-Christ peut répondre à la fois à vos besoins, oui, à vos besoins immédiats et ainsi aussi à vos besoins dans l'éternité. Oui, et ceci avant leurs efforts dans la recherche des besoins immédiats, tandis qu'ils perdent les autres besoins à jamais, pour l'éternité. Faisons attention à tout cela. Chers amis, avez-vous soif? Eh bien, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous une soif divine de Dieu et des choses de Dieu? Avez-vous une soif divine de sa sainte parole? Avez-vous une soif divine de voir les hommes perdus ramenés à la connaissance salvatrice de Jésus-Christ? Comme je l'ai déjà dit si souvent avant, le monde ne sera jamais sauvé par des apologistes, ni par des enseignants non-croyants qui répètent, tels des perroquets, les interprétations et les traditions des aînés des générations passées. Ce sera aux hommes et aux femmes habités par le Saint-Esprit en possession de principes purs et enflammés par une passion inextinguible de servir tous ceux qui sont perdus. Quand j'observe le monde qui est perdu sans Dieu, je peux voir des hommes, hommes et nations, trébuchant et chancelant dans les ténèbres, et mon âme a soif de les amener à qui ? De les amener à Christ pour qu'ils puissent être sauvés, pour éviter qu'ils soient perdus. Il me semble de plus en plus récemment avoir une soif insatiable de prier Dieu et de le servir. Fréquemment, cette soif est si intense que je me retrouve en train de prier en gémissement que je ne peux pousser. Oui, j'aimerais avoir 1000 voix pour crier les marées joyeuses de la rédemption et 1000 mains qui me feraient relever ceux qui sont tombés. Mon âme a soif de Dieu et à travers son esprit, mon âme a littéralement soif de tous ceux qui sont perdus. David a dit « comme une biche » soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? Psaume 42, versets 2 et 3. L'ivrogne. Il a soif de boissons fortes. Aujourd'hui, dans le journal, une femme a tué 7 personnes âgées uniquement pour assouvir son besoin d'alcool fort. 7 personnes qu'elle a tuées. C'est épouvantable. Ayant plutôt soif de la boisson qui va nous altérer pour l'éternité, combien encore l'enfant de Dieu devra-t-il avoir soif de l'eau de vie qui nous amène à la vie éternelle? Oh, mes chers aimés, recherchez donc plutôt Dieu. jusqu'à ce qu'il fasse que votre âme ait une soif divine de voir son but se réaliser sur la terre. Ne vous contentez pas d'être seulement un chrétien médiocre, mais plutôt recherchez Dieu avec tout votre cœur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner des études sur la fin des temps, sur le livre de Daniel. Je ne dis pas cela, puisque moi-même, je crois que vous pouvez consulter l'Internet. J'ai donné plus de 60 études sur ce thème, mais j'ai compris que en parlant uniquement de la fin des temps, cela n'apporte pas trop et cela n'amène pas trop les gens à la repentance pour accepter Jésus-Christ comme leur sauveur. Il faut des messages du salut, des messages de la repentance. Jésus a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ». Saint Matthieu, chapitre 5, verset 6. Vous ne serez pas déçus si, avec ardeur, vous voulez vraiment être revêtus de sa plénitude. Alléluia. Chers amis, ayez le désir de la vie éternelle et des grands biens promis à tous ceux qui combattent courageusement. Lorsque le désir de l'éternelle béatitude vous est donné d'en haut et que vous aspirez à sortir de la prison du corps pour contempler la lumière divine, sans aucune ombre et sans vicissitude, dilatez votre cœur et recevez avec amour cette sainte inspiration. Rendez grâce de toute votre âme à la bonté céleste qui vous prodigue ainsi ses faveurs, qui vous visite avec tendresse, vous excite, vous presse et vous soulève puissamment de peur que votre poids ne vous incline vers la terre. Car rien de cela n'est le fruit de vos pensées ou de vos efforts, mais une grâce de Dieu qui a daigné jeter sur vous un regard, afin que, croissant dans la vertu et dans l'humilité, vous vous prépariez à de nouveaux combats et que tout votre cœur s'attache à Jésus-Christ, avec la volonté ferme de le servir. Quelque ardent que soit le feu, la flamme, cependant, la flamme ne monte pas sans fumée. Ainsi, quelques-uns, quoique embrasés du désir des choses célestes, ne sont point néanmoins entièrement dégagés des affections et des tentations de la chair. Et c'est pourquoi ils n'ont pas en vue la seule gloire de Dieu dans ce qu'ils demandent avec tant d'insistance. Tel est souvent votre désir que vous croyez si vif et si pur, car rien n'est pur ni parfait de ce qui est mêlé d'intérêts propres. Demandez donc, non, ce qui vous est doux, non ce qui vous offre quelques avantages, mais ce qui honore, oui, ce qui honore et qui plaît au Seigneur. Car si vous jugez selon la justice, vous devez devenir docile à ses ordres, de les préférer à vos désirs et à tout ce qu'on peut désirer. Jésus-Christ connaît votre désir. Il a entendu vos gémissements. Vous voudriez jouir déjà de la liberté glorieuse des enfants de Dieu, déjà la demeure éternelle, la céleste patrie où la joie ne tarit jamais et ne ravit votre pensée. Mais l'heure n'est pas encore venue. Vous êtes encore dans un autre temps, temps de guerre. Regardez autour de vous, temps de travail pour autant que vous en trouvez, et temps d'épreuve. Vous désirez être rassasié du souverain bien, mais cela ne se peut maintenant. C'est Jésus-Christ qui est le bien suprême. Attendez-moi, dit le Seigneur, jusqu'à ce que je vienne, et que vienne le royaume de Dieu. Saint Luc, chapitre 22, verset 18. Donc, il faut que vous soyez encore éprouvés sur la terre et exercés de bien des manières. De temps en temps, vous recevrez des consolations, mais jamais assez abondantes pour rassasier vos désirs. Ranimez donc votre force et votre courage, Josué chapitre 1, verset 6, pour accomplir et pour souffrir ce qui répugne à la nature. Il faut que vous vous revêtiez de l'homme nouveau, Éphésiens 4, verset 24. Il faut que vous vous changiez en un autre homme. Il faut que souvent vous fassiez ce que vous ne voulez pas et que vous renonciez à ce que vous voulez. Ce que les autres souhaitent réussira. Mille obstacles s'opposeront à ce que vous souhaitez. On écoutera ce que disent les autres, mais ce que vous direz sera compté pour rien. Ils demanderont et ils obtiendront, vous demanderez et on vous refusera. Voyez-vous, on parlera d'eux, on les exaltera et personne ne parlera de vous. On leur confiera tel ou tel emploi et l'on ne vous jugera propre à rien. Quelquefois la nature s'en affligera, et ce sera beaucoup si vous le supportez en silence. C'est dans ces épreuves et une infinie d'autres semblables que d'ordinaire on reconnaît combien un vrai serviteur de Dieu sait se renoncer et se briser à tout. Il n'est presque rien qui vous fasse sentir autant le besoin de mourir à vous-même que de voir et de souffrir ce qui répugne à votre volonté, surtout lorsque on vous commente des choses inutiles ou déraisonnables. Et parce que assujetti à un supérieur, vous n'osez résister à son autorité. Il vous semble dur d'être en tout conduit par un autre et de n'agir jamais selon votre propre sens. Mais pensez, chers amis, aux fruits de ces travaux, à leur propre fin, à leur récompense trop grande. Genèse chapitre 15, verset 1. Et loin de les porter avec douleur, vous y trouverez une puissante consolation. Car pour avoir renoncé maintenant à quelques vaines convoitises, vous ferez éternellement votre volonté dans le ciel. Là, tous vos vœux seront accomplis, tous vos désirs seront satisfaits. Là, tous les biens s'offriront à vous sans que vous avez à craindre de les perdre. Là, votre volonté ne cesse jamais d'être unie à celle de Jésus-Christ. vous ne souhaiterez rien hors de lui, rien qui vous soit propre. La personne ne vous résistera, personne vous résistera. Non, au ciel, ce sera merveilleux, car personne ne se plaindra de vous, personne ne vous suscitera de contrariété ni d'obstacle, mais tout ce qui peut être désiré, étant présent à la fois, votre âme, rassasiée pleinement, n'embrassera qu'à peine cette immense félicité. Là, Jésus-Christ donnera la gloire pour les opprobres, oui, pour les opprobres que vous avez souffert. Il vous donnera la joie pour vos larmes. Et pour la dernière place, il vous donnera un trône dans son royaume éternel. Alléluia. Là éclateront les fruits de l'obéissance. Le pardonné se réjouira de ses travaux et l'humble dépendance sera glorieusement couronnée. Maintenant donc, inclinez-vous humblement sous la main de tous et ne regardez point qui a dit ou ordonné cela. Mais si quelqu'un demande ou souhaite quelque chose de vous, qui que ce soit, ou votre supérieur, ou votre inférieur, ou votre égal, loin d'en être blessé, ayez soin, soin de l'accomplir avec une affection sincère. Que l'on recherche ceci ou un autre cela, que celui-là se glorifie d'une chose, celui-ci d'une autre, et qu'il en reçoive 1000 louanges pour vous. Ne mettez votre joie que dans le mépris de vous-même, mais dans sa volonté et dans sa sainte gloire. Vous ne devez rien désirer, sinon que ce soit par la vie, soit par la mort, Dieu soit toujours, toujours glorifié en vous. Philippiens chapitre 1, verset 20. Chers amis, si vous le voulez bien, nous allons maintenant terminer par la prière, tout simplement. Prions donc ensemble ces quelques mots, ces quelques pensées qui nous viennent du Saint-Esprit. Prions. Mon Dieu, combien je voudrais me consacrer à toi. Je voudrais me recueillir. Je voudrais être fort. Mon Dieu, je sens qu'en toi seul est la vérité. Oui, Christ est la vérité. Nous aimons Jésus-Christ. Ô mon Dieu, le monde sera heureux et beau quand le Christ régnera. Il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de souillure, mais de l'or et du cristal, et les larmes des saints seront devenues des perles. Ô mon Dieu, Père céleste, que te dire en ma sincérité? Tu es la force, fortifie-moi. Tu es la paix, pacifie-moi. Mon Dieu, que nos vies soient devant toi comme un tapis étendu sur ton chemin, afin que tu puisses y passer. Quand nous voyons les hommes te pressentent, qu'en nous, il découvre Christ. Mon Dieu, qu'en toi s'opèrent les synthèses, se réparent tous les erreurs, car en toi, toutes les erreurs que nous avons commises peuvent être réparées, parce que tu nous as pardonner. Alors, toutes nos erreurs, eh bien, vont être changées, vont s'accomplir tous les longs, patients et obscurs exploits, et qu'on nous soit donc exaltés, et que en nous, Christ puisse être salué, et que les âmes puissent vivre et puissent être sauvées. C'est ce que nous désirons. Amen. Et chers amis, que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne, car il vous aime. Il aime surtout ceux qui se sont donnés à lui, ceux qui ont compris qu'ils étaient perdus, mais qui ont aussi compris qu'il vous a rachetés. À bientôt à nouveau pour la prochaine étude. À demain, Dieu voulant. Au revoir.